Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
C'est un deuxième rendez-vous et c'est une grande joie pour moi de recevoir à nouveau Isabelle et Benoît Dacre-Wright. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Nathalie.
Alors vous exercez, Nathalie. Isabelle, en tant que coach de vie. Vous êtes également conseiller conjugal, Benoît. La semaine dernière, on a évoqué très vite le sujet des émotions, sans détailler ces émotions. Hors antenne, vous parlez aussi de ces émotions, mais des émotions au fond, que vous allez renommer, elles sont toutes positives.
Oui, il n'y a pas d'émotions négatives. Elles nous disent toutes quelque chose d'important que l'on vit intérieurement. Donc, il y a généralement, alors il y a un panel d'émotions énorme, mais généralement on en identifie quatre qui sont les quatre émotions fondamentales. Il y a la peur, la colère, la tristesse et la joie. La peur, elle est vitale. Cette peur, elle nous dit que l'on est en danger. Donc, elle nous exprime un besoin de sécurité. Donc à chaque fois, elles nous disent quelque chose et cela révèle un besoin. Donc on est en danger, on a un risque et on a besoin de sécurité. La colère, elle est une réaction à l'injustice, au besoin que les choses changent. Donc il y a un besoin de réparation, un besoin de changement face à une situation qui n'est pas juste. La tristesse est une réaction à la perte. On a perdu quelque chose. Alors, quoi ? Ça peut être très variable. Mais face à cette perte, on a besoin de consolation. Et cette consolation est la première étape d'un processus de deuil qui va nous permettre de revenir à la vie, de revenir, de consentir à cette perte. Et enfin, la joie est importante aussi. Elle nous dit que nous vivons quelque chose de bon et que nous avons besoin de le partager et de le maintenir, de le retrouver. C'est cet état de joie qui va nous permettre justement de nous construire vers ce qui est positif, qui va nous amener vers ce qui est positif et qu'on a besoin et de partager et d'identifier pour pouvoir nourrir cette force de vie qui va pouvoir...
Et du coup, on voit que dans les émotions, donc s'exprime un besoin, des besoins, et donc c'est là que notre intelligence se met en place, hein, parce qu'autrement on serait des animaux, hein, si on n'avait pas cette intelligence de raisonner, de réfléchir à de quoi j'ai besoin, et puis ensuite de faire un choix, et c'est là que la volonté arrive, on va poser des actes pour... soit se mettre en sécurité, des actes pour retrouver de la justice, ça peut être la vérité, ça peut être etc. Et donc on voit que finalement on passe du stade animal à je subis des émotions, des instincts, même une forme d'intelligence chez les animaux, mais la volonté, là c'est le propre de l'homme. Et on va une émotion sans acte derrière finalement ne sert à rien.
Sans acte ou sans demande, c'est-à-dire que l'identification d'un besoin va permettre de formuler une demande. Et à ce moment-là, c'est quand on fait ce parcours-là, c'est tous les principes de la communication non-violente, quand on fait ce parcours-là et qu'on arrive jusqu'au besoin, on va pouvoir formuler une demande et au lieu d'exprimer une émotion qui va exploser, on va pouvoir poser simplement une demande qui va pouvoir être reprise de manière positive. Et là, l'émotion, elle a joué son rôle. Elle a joué son rôle de langage intérieur pour nous permettre de mieux vivre ce que l'on est en train de connaître, d'affronter.
Au fond, c'est l'émotion positive.
Tout à fait.
Et en fait, du coup, on voit que, en tant qu'adulte, normalement, on devrait être arrivé à gérer ça, c'est-à-dire je ressens ça, je mets ça en j'ai besoin de ça, donc je mets ça en place. Mais nos ados sont en construction en fait, et c'est bien là la difficulté pour nous les parents de les amener justement à cette gestion des émotions. Comment est-ce que je vais gérer aider mon jeune à gérer ses émotions? Et c'est toute la difficulté de l'éducation, hein, parce que ça commence à 2 ans quand on pique une colère dans le supermarché, hein, mais et puis toutes les étapes, on parlait des étapes, l'enfant grandit et il va apprendre petit à petit à gérer.
Mais gérer les émotions, ça ne veut pas dire justement les contrôler pour les faire taire. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait, soit vis-à-vis de l'adolescent qu'on a en face de soi, soit vis-à-vis de soi-même, c'est de mettre un gros couvercle sur les émotions pour s'en affranchir. Et en fait, ça, c'est une erreur, parce que justement, on se refuse à les écouter et on ne leur donne pas le droit de s'exprimer. Or, là, l'émotion, elle a besoin d'être exprimée, et donc, gérer ses émotions, c'est justement leur donner le droit d'exister, mais pas pour faire n'importe quoi. On peut prendre l'exemple de la colère, parce que justement, c'est une émotion qui a quand même assez mauvaise presse.
Oui, et puis on peut penser aussi à tous les parents qui écoutent.
Voilà, non, ne te mets pas en colère. Calme-toi. Mais en fait, cette colère est une énergie formidable. Une colère, une sainte colère pour s'élever contre une injustice, elle est bénéfique. Simplement, il ne faut pas en faire un motif de tout casser. Et donc, cette agressivité qu'on va ressentir, elle n'est pas faite pour devenir violent, elle est faite pour devenir actif et pour nous porter à l'action de manière à ce que les choses changent. Et alors, les hommes ont d'autant plus besoin de travailler cette maîtrise de la colère parce que la testostérone favorise l'agressivité et cette agressivité... aujourd'hui, on dit, oui, c'est animal, c'est sauvage, c'est bestial, c'est tout sauf positif. Non, l'agressivité, c'est une énergie aussi pour réagir. Et en fait, la colère, du coup, si on l'écoute et si on la prend en compte, pour essayer de comprendre avec sa raison d'où vient cette colère, quelle est l'injustice, contre quoi est-ce qu'il faut s'élever, qu'est-ce qui devrait changer, à ce moment-là, on va pouvoir canaliser cette belle énergie de l'agressivité pour être proactif, pour être actif de manière à aller vers un changement et non pas être violent. Et la violence, le moment où elle va émerger, c'est quand on voudra faire taire la colère, parce que de toute façon elle va vouloir s'exprimer. Si vous les faites taire, les pierres crieront, dit-on dans l'évangile. C'est un peu ça, la colère a besoin de s'exprimer de façon positive.
Alors, pour les familles, les parents qui écoutent ces quelques minutes d'émission dans Des clics pour grandir, vous revisitez avec aussi les bonnes définitions ces émotions qui peuvent nous traverser en une journée, que ça soit la joie, la tristesse, la colère, mais très concrètement, quand on est parent et quand on est des ados, Benoît et Isabelle, se laisser traverser par la colère, raisonner, l'habiter, c'est pas si simple. Concrètement, pour un père de famille devant son ado ou qui est vraiment dans une colère monstrueuse, très agressif, Isabelle, vous y prenez comment ?
En fait, je crois déjà, on le voit bien dans nos familles, c'est quoi les types de colère ? Oui, c'est pas juste, moi j'ai pas le droit de sortir alors que mon frère il a le droit de sortir, moi à son âge j'avais pas le droit de faire ça, le prof, c'est un nul, il dit n'importe quoi, il nous interroge sur tel sujet alors qu'on ne l'a pas révisé. Bon, voilà. Donc c'est ça, c'est les colères de jeunes. Une fois, ça s'exprime, ok, d'accord, t'avais pas le droit. Oui, en effet, à son âge, toi, tu n'avais pas le droit de faire ça. Donc, on va dialoguer. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas le droit de le faire ? Réfléchis. Donc, on va mettre en position de réflexion. Voilà. Pourquoi, à ton avis, pourquoi ça se passe comme ça ? Donc le jeune va se mettre dans une autre posture, c'est-à-dire il va essayer de descendre en disant « je vais essayer de raisonner ». Alors pourquoi le prof fait ça ? Pourquoi papa dit ça ? Et des fois c'est intéressant de les mettre dans une autre place. Et toi si t'étais papa, qu'est-ce que tu ferais ? Et toi si t'étais, qu'est-ce que tu ferais ? Donc déjà ça va les aider à voir un petit peu comme quand on regarde une scène. Tu la regardes comme ça, la scène, mais si tu sortais de la scène, comment tu la verrais, la scène ? Et donc, ça va les aider à avoir un autre regard sur la situation, pour essayer de trouver une solution, en fait. L'idée, c'est la solution.
Alors, pour aider, quelle est la meilleure place quand on est père et mère ? Laisser la place au père, quand on est en difficulté avec son ado. Là, je m'adresse donc à Benoît et Isabelle, conseiller conjugal pour vous et vos coachs. Et je pense aussi à tous les pères qui vous écoutent peut-être. Et puis toutes ces mères qui vous écoutent, qui ne laissent pas toujours la place qu'il faut. C'est ce qu'on disait un petit peu en préparant cette émission du jour.
Les deux paroles ont de l'importance, celle de la mère et celle du père. Mais il faut accepter qu'elles soient différentes. Et en effet, il faut accepter que quelquefois le père va avoir comme attitude de laisser, d'accorder une confiance supplémentaire au jeune. Et effectivement, face à ces sentiments de colère, d'injustice du jeune, de l'adolescent qui est un peu en rébellion, il faut entendre aussi son besoin d'aller conquérir son autonomie. Et cette conquête de l'autonomie, en effet, peut le mettre en danger. Et il ne s'agit pas de mettre son jeune en danger. Donc il s'agit de lui donner aussi des règles, des repères sur les dangers qu'il peut affronter, mais en le responsabilisant, en lui disant « c'est à toi de le gérer ». Peu à peu à lui donner cette responsabilité, parce que c'est ça qui va le faire sortir d'une rébellion irresponsable pour acquérir sa propre autonomie. Mais ça, il faut consentir à une part de risque. Et ça peut être très compliqué pour le parent qui lui-même voit se réveiller en lui des peurs, des craintes, etc. Et quelquefois, la mère va refuser parce qu'elle a plus ce souci de protection de l'enfant, ne va éventuellement pas consentir à ce que le père le fasse partir vers le risque de l'extérieur, vers le risque de la vie. Et il peut y avoir une tension entre les parents, et c'est important que les parents dialoguent et comprennent et consentent à avoir un regard différent et consentent à ce que chacun puisse apporter sa pierre. Parce que peut-être que la mère va avoir la conscience d'un risque particulier. Et effectivement, il faut y veiller. Et peut-être que le père va dire « Mais oui, mais c'est important que là, ce soit l'enfant qui prenne ses responsabilités en sachant effectivement ce que ça représente et qui fasse ses choix pour que, parce qu'il fait ses choix, on puisse en parler avec lui. Or, si on le protège tout le temps, on ne va pas lui permettre de faire ses propres choix, de construire sa confiance en soi, et on ne va pas lui permettre de prendre des risques qui permettent d'en discuter avec lui.
Alors au fond, et c'est malheureusement la fin de cette émission du jour, Benoît et Isabelle, on peut entendre ô combien, dans cette altérité aussi de l'homme et de la femme, du père et de la mère, combien aussi cette présence du père est importante. Donc, mesdames, les auditrices, maman, laissez aussi la place hein, à vos maris, enfin, à votre mari. Hein. Isabelle et Benoît Dacre-Wright, merci pour l'intervention du jour. Je vous propose de retrouver d'ici quelques semaines pour d'autres entretiens. Merci.
Merci Nathalie.
Et au revoir. Merci Nathalie.
Merci.
Au revoir.